Arthur Conan Doyle, Quand la terre hurla. Je me rappelais vaguement avoir entendu mon ami Edward Malone, de la Gazette, parler du professeur Challenger, en compagnie duquel il avait vécu quelques aventures assez remarquables. Mais je suis tellement accaparé par mon métier et ma firme est si submergée de commandes qu'en dehors de ce qui touche à mes intérêts personnels, je sais mal ce qui se passait dans le monde. En gros, j'avais gardé de Challenger l'image caricaturale d'un génie sauvage, violent et sectaire. Je fus grandement surpris de recevoir de lui une lettre d'affaires rédigée dans les termes suivants. 14 bis, Enmore Gardens, Kensington. Monsieur, j'ai l'occasion de louer les services d'un expert en forages artésiens. Je ne vous dissimulerai pas que mon opinion sur les experts n'est pas très haute. J'ai maintes fois constaté qu'un homme qui, comme moi-même, est doté d'un cerveau bien agencé, dispose d'une largeur de vue plus grande et plus saine qu'un soi-disant spécialiste, lequel se cantonne dans l'exercice d'un savoir particulier. Néanmoins, je suis résolu à vous mettre à l'épreuve. En regardant la liste des autorités en puits artésiens, une certaine bizarrerie, absurdité allais-je écrire, a retenu mon attention. J'ai pris des renseignements et il s'est trouvé que mon jeune ami, M. Edward Malone, vous connaissait. Je vous écris donc pour vous dire que je serais heureux d'avoir un entretien avec vous. Si vous répondez aux conditions requises, et celles que je requiers ne sont pas minces, il est possible que je vous confie une affaire extrêmement importante. Je ne puis vous donner plus de précisions sur l'affaire en question, sinon qu'elle est encore des plus secrètes. Nous en débattrons verbalement. En conséquence, je vous prie de surseoir à tout nouvel engagement et je compte que vous viendrez me voir à l'adresse ci-dessus, vendredi prochain, à 10h30. Il y a un décrottoir et un paillasson à la porte. Madame Challenger est très pointilleuse à ce sujet. Je demeure, monsieur, tel que j'étais au début de cette épître, George Edward Challenger. Je tendis cette lettre à mon secrétaire et il informa le professeur que M. Parfait Jones serait heureux de se trouver au rendez-vous. C'était une lettre d'affaires parfaitement civile, mais elle commençait par la phrase « Nous avons bien reçu votre lettre non datée », ce qui provoqua une deuxième missive du professeur. Son écriture ressemblait à un réseau de fils de fer barbelés. « Monsieur, je remarque que vous soulignez, à des fins critiques, que ma lettre n'était pas datée. Pourrais-je attirer votre attention sur le fait que, par une sorte de compensation d'un impôt monstrueux, notre gouvernement a l'habitude d'apposer une petite indication circulaire ou timbre sur l'extérieur de l'enveloppe, ce qui notifie la date de la mise à la poste. Si cette indication fait défaut ou si elle est illisible, adressez-vous aux autorités postales compétentes. En tout état de cause, je vous prierai de borner vos observations aux problèmes inhérents à l'affaire sur laquelle je vous consulte et de mettre un terme à vos commentaires touchant la forme éventuelle de ma correspondance. » Il me parut évident que le professeur était fou. Avant de m'engager plus avant, je me rendis donc chez mon ami Malone, que je connaissais depuis le bon vieux temps où nous jouions ensemble au rugby dans l'équipe de Richmond. Il était aussi irlandais et aussi gai que jamais. Il s'amusa fort de ma première échauffourée avec Challenger. « Ce n'est rien du tout, mon vieux, me dit-il. Quand tu auras été avec lui pendant 5 minutes, tu te sentiras quasi écorché vif. Pour ce qui est de se montrer désagréable, c'est le champion du monde. Et pourquoi le monde devrait-il l'endurer ? Mais il ne l'endure pas. Si tu faisais le total des procès en diffamation, des bagarres et des citations devant le tribunal de simple police... Citations, pourquoi ? Pour coups et blessures. Dieu me pardonne, mais il irait volontiers jusqu'à te jeter du haut de l'escalier si tu manifestais un désaccord avec lui. C'est l'homme des cavernes en veston. Je le vois très bien, avec un gourdin dans une main et, dans l'autre, un morceau de silex très tranchant. Il y a des gens qui ne sont pas de leur siècle, lui n'est pas de son millénaire. Il appartient à la période néolithique ou par là. Et il est professeur. Voilà le merveilleux. C'est le plus grand cerveau d'Europe et au service de ce cerveau, il emploie une force motrice capable de transformer tous ses rêves en réalité. Ses collègues le haïssent comme du poison, ils essaient de le freiner ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Lui les ignore, il fonce sur sa voie à toute vapeur. Je réfléchis. Une chose au moins est claire, je ne veux rien avoir à faire avec lui. J'annule mon rendez-vous. Jamais de la vie, tu le maintiens au contraire, et tu arriveras à l'heure. Que dis-je, à l'heure, à la minute, sinon tu en entendras parler. Et pourquoi, s'il te plaît? Écoute-moi, d'abord, ne prends pas trop au pied de la lettre ce que j'ai dit de mon vieux challenger. Tous ceux qui l'approchent apprennent à l'aimer. C'est un vieil ours qui n'est pas méchant, crois-moi. Je me rappelle comment il a porté sur son dos un bébé indien qui avait la variole pour le ramener au fleuve après avoir marché dans la brousse pendant 150 kilomètres. Il est formidable en tout, de toutes les manières, comprends-tu? Si tu es régulier avec lui, il ne te fera aucun mal. Je ne courais pas ce risque. Ce serait stupide. As-tu déjà entendu parler du mystère de Enghisdone? Le forage d'un puits sur la côte sud? Il s'agit d'une exploration secrète pour une exploitation de houille, si j'ai bien compris. Malone cligna de l'œil. Si tu veux, vois-tu, je suis dans les confidences du bonhomme. Je ne peux rien dire tant qu'il ne m'en donne pas l'autorisation. Mais je te dirai quand même ceci qui a paru dans la presse. Un type, Betterton, qui a fait fortune dans le caoutchouc, a légué ses biens à Challenger il y a quelques années, sous la réserve que cet argent serait utilisé dans l'intérêt de la science. La somme est coquette, plusieurs millions de livres. Challenger a alors acheté un domaine dans le Sussex à Enghisdone. C'était une terre sans valeur, à la lisière nord du pays de la craie. Il en a obtenu une grande étendue qu'il a entourée de fils de fer et de grillages. Au milieu, il y avait un profond ravin qu'il commença à faire creuser. Il annonça... Malone cligna de l'œil encore une fois. Il annonça qu'il y avait du pétrole en Angleterre et qu'il entendait le prouver. Il construisit un petit village modèle qu'habita une colonie d'ouvriers bien payés qui ont tous juré de rester bouche cousue. Le ravin est protégé par des fils de fer et des grillages, comme tout le domaine. Sa surveillance est renforcée par des limiers féroces. Plusieurs journalistes ont déjà failli y perdre la vie et je ne parle pas de leur fond de pantalon. Ces chiens sont bien dressés. Il s'agit d'une entreprise colossale. C'est la société de Sir Thomas Morden qui en est chargée, mais là encore, tout le monde a promis de tenir sa langue. Il est vraisemblable que le moment est venu où un spécialiste de puits artésiens est nécessaire. Alors, serais-tu assez idiot pour refuser un travail pareil? Songe à l'intérêt qu'il représente, à l'expérience que tu acquerras. Et puis, il y aura un gros chèque au bout. Enfin, tu te frotteras à l'homme le plus extraordinaire que tu puisses jamais rencontrer. Les arguments de Malone prévalurent et vendredi matin, je pris la route d'Enmore Gardens. Je m'attachais si bien à être exact que j'arrivais devant la porte de Challenger 20 minutes trop tôt. J'attendais dans la rue quand je réalisais soudain que la Rolls-Royce s'arrêtait là, avec sa flèche en argent sur la portière, ne m'était pas inconnue. C'était sûrement la voiture de Jack Devonshire, le jeune associé de la grande société Morden. Je l'avais toujours pris pour le plus courtois des hommes, si bien que je fus profondément troublé lorsque tout à coup il apparut, jetant les mains vers le ciel et suppliant avec une grande ferveur. « Oh Seigneur, jetez-le au diable! Oh oui, au diable cet homme! » « Qu'est-ce qui ne va pas, Jack? Vous me paraissez irrité ce matin. »« Hello, parfait! Seriez-vous aussi dans ce job? » ?»« Il y a des chances. » »« Eh bien, ça vous fera le caractère. » Plus que vous n'avez l'air de pouvoir le supporter, hein? Oui, le maître d'hôtel vient de me dire. Le professeur m'a prié de vous avertir, monsieur, qu'il était occupé à présent à manger un œuf et que, si vous veniez à une heure plus convenable, il vous recevrait volontiers. Voilà, J'ajoute que je m'étais déplacé pour entrer dans 42 000 livres qu'il nous doit. » J'eus un sifflement. « Vous ne pouvez pas rentrer dans votre argent ?»« Oh, si, pour l'argent, il est parfait. Je rends pleine justice à ce vieux gorille. Pour l'argent, il a les mains ouvertes. Mais il paie quand ça lui plaît, comment ça lui plaît, et il se moque du monde. Cela dit, tentez votre chance, vous verrez bien ce qu'il vous arrivera. » Sur ces mots encourageants, il se mit au volant et démarra. Je surveillais ma montre. L'heure zéro sonna enfin. J'ose dire que je suis du genre solide. J'ai été finaliste de la compétition des poids moyens au Belles-Îles Boxing Club. Mais jamais je ne m'étais présenté à un rendez-vous dans un tel état d'énervement. Il ne s'agissait pas d'une peur physique, car j'avais confiance dans mes moyens pour le cas où ce fou inspiré m'attaquerait. Il s'agissait d'autre chose, la crainte d'un scandale public et l'appréhension de rater une affaire lucrative. Toutefois, les choses étant toujours plus simples quand l'imagination cède le pas à l'action, je refermai brutalement le boîtier de ma montre et sonnai à la porte. Un vieux maître d'hôtel au visage de bois m'ouvrit. Cet homme arborait une expression, ou une absence d'expression, qui donnait l'impression qu'il était tellement habitué aux secousses de l'existence que rien au monde ne pouvait plus l'étonner. « Avez-vous rendez-vous, monsieur ?»« Certainement. » Il compulsa une liste qu'il tenait à la main. « Votre nom, monsieur ?»« D'accord, monsieur Parfait Jones. 10h30. » Dans l'ordre. Nous devons nous méfier, monsieur Jones, car les journalistes nous ennuient beaucoup. Le professeur, comme vous le savez peut-être, n'approuve pas la presse. Par ici, monsieur, le professeur Challenger vous reçoit à l'instant. Je fus donc introduit. Je crois que mon ami Ted Malone a beaucoup mieux décrit le paysage dans son monde perdu que je ne saurais le faire. Je n'insisterai donc pas. Tout ce dont je pris conscience fut un énorme tronc d'homme derrière un bureau en acajou, une grande barbe noire taillée en bêche et deux gros yeux gris à demi recouverts par des paupières qui retombaient insolemment. Sa tête massive était inclinée en arrière, sa barbe pointée de l'avant, il exhibait par toute sa personne une intolérance arrogante, insupportable. « Que diable me voulez-vous ? » Telle était la question qui se lisait dans son regard. Je posai ma carte sur la table. « Ah oui, » dit-il en la prenant et en la repoussant aussitôt, comme si elle sentait mauvais. « Bien sûr, vous êtes l'expert, soi-disant. Monsieur Jones, Monsieur Parfait Jones. Vous pouvez rendre grâce à votre parrain, Monsieur Jones, car c'est votre prénom qui a d'abord attiré mon attention. Je suis ici, professeur Challenger, pour une conversation d'affaires et non pour discuter de mon prénom. » articulai-je avec toute la dignité dont j'étais capable. Mon Dieu, vous me paraissez bien susceptible. Vos nerfs sont dans un état d'irritation accentué, monsieur Jones. Il nous faudra marcher à pas feutrés quand nous aurons affaire ensemble, monsieur Jones. Je vous en prie, asseyez-vous et remettez-vous. J'ai lu votre petite brochure sur la mise en valeur de la presqu'île du Sinaï. L'avez-vous écrite vous-même ? « Naturellement, monsieur, elle est signée de mon nom. »« D'accord, d'accord, mais ça ne veut pas toujours dire grand-chose, n'est-ce pas ? Pourtant, j'admets que pour une fois, la réalité concorde avec les apparences. Le livre n'est pas exempt de mérite. Sous le style un peu terne, perce quelques idées. Même, ici et là, des germes de pensée. Êtes-vous marié ? Non, monsieur, je ne suis pas marié. » « Alors, il y a des chances pour que vous gardiez un secret ?»« Si je vous promets de garder un secret, je tiendrai assurément ma parole. »« C'est vous qui le dites, mon jeune ami Malone. » Il parlait de Ted comme s'il était un bambin de 10 ans. « Malone a bonne opinion de vous. Il m'a dit que je pouvais vous faire confiance. En vérité, cette confiance serait grande. » Car je me trouve engagé maintenant dans l'une des plus grandes expériences, je devrais dire la plus grande expérience de l'histoire du monde. Je vous demande d'y participer. J'en serai très honoré. C'est en effet un honneur. Je conviens que je n'aurais pas dû partager mes travaux avec quiconque, mais la nature gigantesque de l'entreprise exige les plus hauts talents techniques. À présent, monsieur Jones, puisque vous m'avez donné votre parole que vous garderez le secret, j'en arrive au point essentiel qui est celui-ci. Le monde sur lequel nous vivons est lui-même un organisme vivant, doté, comme je le crois, d'une circulation, d'une respiration et d'un système nerveux qui lui sont propres. Sans aucun doute, je me trouvais en face dans ma boule. Je remarque, poursuivit-il, que votre cervelle a du mal à assimiler cette idée, mais elle finira bien par la digérer. Vous découvrirez par exemple à quel point une lande de bruyère ressemble à la partie velue d'un animal géant. La nature procède souvent par analogie. Puis vous considérerez les exhaussements et les tombées séculaires du sol qui indiquent une lente respiration. Enfin, vous noterez les trémoussements et les grattements qui apparaissent à nos perceptions lilliputiennes sous la forme de tremblements de terre et d'autres ébranlements. « Mais les volcans ? » demandai-je. « Tut, tut ! Ils correspondent aux parties chaudes de notre corps. » Je me mis la cervelle en tire-bouchon pour tenter de trouver une réponse à ces assertions ridicules. « La température, m'écriai-je, n'est-il pas vrai qu'elle s'accroît rapidement lorsqu'on descend et que le centre de la Terre est de la chaleur liquide ?» Il balaya de la main cette objection. Vous devez probablement savoir, puisque l'enseignement primaire est obligatoire, que la Terre est aplatie au pôle, ce qui signifie que le pôle est plus près du centre que n'importe quel autre point de la Terre et qu'il devrait donc être affecté par cette chaleur dont vous parlez. Il est notoire, bien sûr, que les conditions au pôle sont tropicales, n'est-ce pas ? Première nouvelle. Naturellement, c'est le privilège du penseur original d'émettre des idées neuves, généralement mal accueillies par le vulgaire. Maintenant, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça ? À première vue, c'est un oursin. Exactement, s'exclama-t-il avec un air de surprise exagéré, comme s'il se trouvait devant un enfant qui aurait résolu contre toute attente un problème difficile. Un oursin, un échinoderme banal. La nature se répète dans beaucoup de formes sans regarder à la taille. L'échinoderme est un modèle, un prototype du monde. Vous constatez qu'il est grossièrement rond, mais aplati au pôle. Considérons donc le monde comme un gros oursin. Mon objection principale était que ladite considération était trop absurde pour être discutée, mais je me gardais de l'exprimer. Je me ralliais à une affirmation moins définitive. Une créature vivante a besoin de se nourrir, dis-je. Où le monde pourrait-il satisfaire son gros ventre ? Un bon point, un excellent bon point, lança le professeur d'un ton protecteur. Vous avez l'œil vif pour l'évident, mais vous êtes lent pour réaliser des imbrications plus subtiles. Comment le monde obtient-il sa nourriture ? Retournons-nous vers notre petit camarade l'échinoderme. L'eau qui l'entoure coule à travers les canaux de cette petite bête et lui fournit sa nourriture. Alors vous pensez que l'eau ? Non, monsieur, pas d'eau, l'éther. La terre broute circulairement dans les champs de l'espace. Pendant qu'elle se déplace, l'éther passe continuellement à travers son écorce et pourvoit à sa vitalité. Et il y a une quantité de petits mondes oursins qui font la même chose. Vénus, Mars, etc. Chacun de ces mondes possède son propre champ pour paître. Cet homme était visiblement fou, mais non moins visiblement, il n'y avait pas moyen de lui en faire convenir. Il prit mon silence pour une marque d'acquiescement et il me sourit avec une bienveillance infinie. Nous progressons, fit-il. La lumière commence à pénétrer. On est un peu ébloui au début, naturellement. Et puis, on finit par s'y accoutumer. S'il vous plaît, accordez-moi encore toute votre attention, car j'ai encore deux ou trois observations à présenter au sujet de cette petite bête que je tiens dans ma main. Supposons que, sur la coriace écorce extérieure de l'oursin, quelques insectes, infiniment petits, rampent à sa surface. L'oursin se rendrait-il compte de leur présence ? Non, vraisemblablement. Vous pouvez par conséquent imaginer facilement que la Terre n'a pas la moindre idée de la manière dont elle est utilisée par l'espèce humaine. Elle ne se rend absolument pas compte de cette poussée champignonneuse de végétation et de l'évolution de ces minuscules animalcules qui se sont rassemblés sur elle au cours de ses voyages autour du Soleil, tout comme les bernaches étaient récoltées sur les quilles des anciens bateaux. Tel est l'état actuel des faits. Je me propose de le modifier. » Je le regardais avec ahurissement. « Vous vous proposez de le modifier ? » répétai-je. Je me propose de faire savoir à la Terre qu'il existe au moins une personne, George Edward Challenger, qui sollicite son attention, qui, en vérité, insiste pour retenir son attention. C'est le premier avis de ce genre qu'elle a évidemment jamais reçu. Et comment, monsieur, vous y prendrez-vous? Ah, voilà où nous abordons notre affaire. Vous avez mis le doigt dessus. De nouveau, je vous prie de vous intéresser à cette petite bête. Sous sa croûte protectrice, elle est tout nerf et toute sensibilité. N'est-il pas évident que si un animalcule parasite désirait attirer son attention, il creuserait un trou dans sa coquille afin de stimuler son appareil sensible? C'est l'évidence même. Ou bien prenons l'exemple d'une puce ou d'un moustique qui explore la surface du corps humain. Nous pouvons très bien ne pas nous rendre compte de sa présence. Mais bientôt, quand l'insecte aura enfoncé sa trompe dans notre peau, qui est notre croûte, notre écorce, notre coquille, nous nous rappellerons sans plaisir que nous ne sommes pas seuls au monde. Mes projets commencent sans doute à s'éclairer pour vous. La lumière luit dans les ténèbres. Grand Dieu, vous vous proposez de creuser un puits à travers l'écorce terrestre ? Il ferma les yeux sous l'effet d'un ineffable contentement de soi. « Vous avez devant vous, dit-il, le premier homme qui aura percé cette corne épidermique. Je peux même parler au passé indéfini et dire qu'il l'a percé. »« Vous l'avez percé ? » ?»« Avec l'aide très efficace de Morden et compagnie, je crois pouvoir affirmer que je l'ai fait. » Plusieurs années d'un travail sans interruption, de nuit comme de jour, effectué par des spécialistes qualifiés de la perceuse, du vilebrequin, du concasseur et de l'explosif, qui nous ont enfin amenés au but. Vous ne voulez pas dire que vous avez traversé l'écorce? Si vos expressions traduisent de l'émerveillement, je les tolère. Mais si elles traduisent de l'incrédulité? Pas du tout, monsieur, aucune incrédulité. Alors acceptez mes déclarations sans avoir l'air de les mettre en doute. Nous avons traversé l'écorce. Elle avait une épaisseur de exactement 13 200 mètres 988. En gros, 13 200 mètres. Au cours de notre percement, nous avons découvert, cela vous intéressera peut-être, des bancs de houille, une fortune. Ils nous permettront sans doute, à la longue, d'amortir les frais de toute l'entreprise. Notre difficulté principale a été les sources et jaillissements d'eau dans la craie inférieure et dans les sables de Hastings, mais nous l'avons surmonté. Nous en sommes au dernier stade, et à ce stade, c'est M. Parfait Jones qui va jouer le rôle de moustique. Votre perforatrice pour puits artésiens prend la place de la trompe de l'insecte. Le cerveau a fait tout son travail. Excite le penseur. Entre le technicien, le parfait ingénieur, avec sa verge de métal. Ai-je été assez clair? Vous avez parlé de 13 kilomètres, m'écriai-je. Savez-vous, monsieur, que la limite pour le forage d'un puits artésien est approximativement de 1500 mètres? J'en connais un, en Haute-Silésie, qui a une profondeur de 1890 mètres, mais il est considéré comme une réussite miraculeuse. « Vous ne m'avez pas compris, monsieur Parfait. De deux choses l'une, ou bien mes explications n'ont pas été claires, ou bien votre intelligence est rétive. Je n'hésite pas. Je sais parfaitement quelles sont les limites de forage pour les puits artésiens, et il est peu vraisemblable que j'aurais dépensé des millions de livres pour ce tunnel colossal si un forage d'un mètre avait suffi. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir une perforatrice en bon état, avec une pointe aussi effilée que possible, qui n'ait pas plus de 30 mètres de long et qui soit actionnée électriquement. un système ordinaire de percussion, déclenché par un poids, répondra à tous les besoins. Pourquoi électriquement ? Je suis ici, Monsieur Jones, pour donner des ordres et non des raisons. Avant que nous en ayons terminé, il peut arriver, c'est une éventualité, que votre vie dépende justement du fait que cette perforatrice sera mue à distance par un moteur électrique. Cet aménagement, j'imagine, est dans vos cordes ? Certainement. Alors, préparez-le. L'affaire n'en est pas encore au point qu'elle exige votre présence immédiatement, mais c'est immédiatement que vous devez vous préparer à être prêt. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Mais il est essentiel, m'insurgeai-je, que vous me renseigniez au moins sur le sol que cette perforatrice doit attaquer. Sable, argile, craie, pour chaque sol, il faut un traitement différent. Baptisons-le compote, dit Challenger. Oui, supposons pour l'instant que vous ayez enfoncé votre pointe dans de la compote. Bon, maintenant, Monsieur Jones, j'ai quelques affaires d'importance qui requièrent ma liberté d'esprit. Aussi, je vous souhaite le bonjour. Vous pouvez établir un contrat en règle, plus un devis, à l'intention de ma direction des travaux. Je m'inclinai et je me dirigeai vers la porte. Mais au moment de sortir, ma curiosité fut la plus forte. Déjà, il était en train d'écrire furieusement, avec une plume d'oie qui gémissait sur le papier. Il me regarda quand je l'interrompis, avec mécontentement. « Monsieur !»« Eh bien, monsieur, je vous croyais parti. » « Je désirais seulement vous demander, monsieur, quel peut être le but d'une tentative aussi extraordinaire. »« Allez-vous-en, allez-vous-en, monsieur » s'écria-t-il. « Élevez donc votre esprit au-dessus des nécessités mercantiles et utilitaires du commerce. Secouez vos conceptions mesquines des affaires. La science exige du savoir. Laissez le savoir nous conduire où il entend. Encore faut-il que nous l'ayons. » Savoir une fois pour toutes qui nous sommes, pourquoi nous sommes, où nous sommes, n'est-ce pas là la plus grande des aspirations humaines ? Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en. » Il pencha à nouveau sa grosse tête noire au-dessus de ses papiers et elle se fondit dans sa barbe. La plume d'oie gémit plus âprement que jamais. Alors je quittai cet homme extraordinaire, la tête pleine d'un tourbillon de pensées. J'étais maintenant son associé.